J'espère que vous allez bien. Je comprends que ça ne va pas toujours bien. Et c'est normal aussi. Ce matin, les dames, je m'adresse aux hommes ce matin. On va adresser la parole de Dieu aux hommes. Mais je vais commencer avec vous, mesdames, parce que je veux vous faire lever la main droite et dire « Je promets de ne pas donner de coups de coude. » Ou de regard. Non, mais vous comprenez, on continue ce matin la suite avec Néhémie, un homme de courage. Et par alternance aussi, on va revenir avec Esther. Fait que faites attention, hein, ça peut jouer à double sens, les coups de coude. Mais je veux vous encourager, mesdames, parce que c'est pertinent, je pense, que de voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit, comment est-ce qu'elle encourage les hommes à vivre, comment est-ce qu'elle encourage les femmes à vivre. Et en tant qu'homme, on a besoin de l'entendre et de se dire, c'est ça que Dieu attend de moi. Et si vous êtes une dame, ben vous savez, vous avez l'occasion d'entendre aussi ce que Dieu s'attend de votre père, de votre frère, de votre mari, des hommes qui vous entourent. Et si vous voyez qu'il y a du travail à faire sur un sujet en particulier, ben plutôt que de donner un coup de coude, prenez le temps de prier, demandez à Dieu comment est-ce que vous pouvez soutenir l'homme avec lequel vous êtes prêt pour dire comment je peux le soutenir, puis l'encourager à faire de mieux en mieux. Et je pense que c'est l'attitude qui va plaire à l'homme près de vous et aussi à Dieu, je pense. Est-ce que vous avez entendu dans les nouvelles la semaine dernière des maisons en Californie qui brûlent? Hein, les maisons, là, il y a une sécheresse depuis 2 ans qui est en Californie, des maisons de gens bien fortunés qui sont en train de brûler à cause du feu qui a grandi. Et en fait, le problème de sécheresse qu'il y a en Californie date pas d'hier ni de v'là 2 ans. En 91, c'est intéressant parce que j'avais préparé cet exemple-là avant même que cette semaine ça ressorte dans les nouvelles. Pendant de nombreux mois, la sécheresse sévissait en Californie, les nappes d'eau baissaient de façon dramatique, puis des millions de gens s'inquiétaient pour leur avenir. Puis, dans le premier trimestre de 91, les pluies arrivèrent. Alors, il y a une succession de tempêtes en provenance du Pacifique qui se sont abattues sur les continents. Puis, en quelques semaines, Los Angeles avait reçu 28 cm d'eau. Plusieurs pensaient que leurs prières avaient été exaucées, mais un fonctionnaire le voyait autrement. Il disait que les pluies avaient été un désastre parce que juste au moment où l'État s'apprêtait à publier une politique de conservation de l'eau à long terme, il était tombé suffisamment de pluie pour effacer les inquiétudes. Le sentiment d'urgence conduisant à faire des choix et à planifier à long terme aurait pourtant été nécessaire et salutaire. Ce qui se passait là-bas, il y avait un homme qui disait, ben s'il y avait eu de la sécheresse un peu plus loin, on aurait fait des actions qui, à long terme, auraient été bonnes pour nous. Ça nous aurait donné le succès et l'image d'Israël ressemble beaucoup à ça. Hein? Quand Israël arrive en période de sécheresse, disons, spirituelle, où ce que Dieu les conduit vers un désert pour dépendre de Dieu et d'apprendre de ce que Dieu, dans quoi il est en train de les placer, et d'apprendre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour se mettre des pratiques qui vont nous aider à avancer de l'avant, toujours vers l'avant, puis qui vont nous donner le succès aussi à long terme. Israël devait comprendre cette chose-là et malheureusement, il y a eu beaucoup d'échecs et de succès qu'on voit à travers le peuple d'Israël. Vous savez, je ne veux pas vous présenter ce matin un évangile bonbon, un évangile de prospérité où ce que Dieu veut donner le succès facilement et simplement à tout le monde. Viens à Jésus puis tu vas réussir dans toutes les sphères de ta vie. C'est pas ce que je veux dire ce matin, mais il y a un aspect des Écritures que je crois bien réel, que Dieu veut donner le succès. Dieu veut vous donner le succès. Dieu veut que vous réussissiez. Et je crois que c'est une vérité importante dans les Écritures qui nous est donnée. Dieu veut certainement notre bien. Dieu veut certainement notre réussite. Et en tant qu'homme, Dieu veut qu'on soit des hommes de courage, que Dieu va accorder aussi le succès. Et c'est ce qu'on va voir à travers l'exemple de Néhémie. Laissez-moi vous donner quelques citations. Hein? Le succès de notre temps, ben tout le monde peut avoir des définitions et surtout on peut avoir plusieurs moyens de d'évaluer qu'est-ce que c'est le succès. Mais j'ai trouvé des citations, quelques citations intéressantes et probablement remplies beaucoup de sagesse aussi. George MacDonald disait « Peu importe ce qu'un homme fait sans Dieu, il échouera misérablement ou réussira encore plus misérablement. » Pour réussir dans la vie, c'est Zaida Jones-Blaine qui disait, pour réussir dans la vie, tu as besoin non seulement d'initiative, mais aussi de finitiative. Hein? Initier quelque chose, c'est débuter. Puis finir quelque chose, ben c'est faire preuve de finitiative. Le mot n'existe pas. Mais le concept devrait être important pour nous en tant qu'homme de Dieu aussi. En tant qu'homme rempli de courage. Et Néhémie est un homme qui a montré beaucoup d'initiative et de finitiative. Si on emploie cette expression-là. Quelqu'un a demandé à Paul Harvey, le journaliste et commentateur radio, de révéler le secret de son succès. Et il a répondu simplement, « Je me relève quand je tombe. » Dieu veut qu'on se relève. Dieu veut qu'on se lève et qu'on réussisse. Dieu veut nous accorder le succès. Ça se peut qu'on soit confronté à un moment donné à des échecs, à des difficultés, mais le succès, Dieu veut encore nous le donner. Dieu veut qu'on réussisse. Et je vous invite à tourner dans Néhémie 1, si ce n'est pas déjà fait. On s'était laissé la dernière fois, on avait terminé le chapitre 2, versets 1 à 5, on avait terminé. Mais je vais juste relire une phrase que Néhémie dit. En fait, il va y avoir cette idée-là qui va revenir deux fois à travers ce qu'on va lire ce matin. Mais Néhémie 1, 11, une petite phrase que je vais juste faire ressortir. En fait, on va lire le verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Et là, Néhémie dit, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Néhémie était échanson du roi, il était à Suse dans la capitale de Perse avec le roi Artaxerxès qu'on avait vu, qui était le fils de Xerxès. Il dit à Dieu, juste avant de partir, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » Une prière, certainement, que Dieu voulait répondre. Et on va le voir, que Dieu va répondre à cette prière-là. Dieu donne le succès à l'homme de courage. Dieu veut te donner le succès. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière. Et ensuite de cela, on va plonger nos regards, nos pensées dans le chapitre 2 de Néhémie. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Ce que tu nous dis, Dieu, est bon pour nos vies. Tu le fais pas pour nous contrarier, pour nous restreindre. Tu connais, Seigneur, ce que l'on a de besoin. Tu connais le découragement ou le courage que l'on a. Tu connais, Seigneur, ce que l'on a de besoin pour se relever ou pour continuer d'avancer. Seigneur, je te prie qu'à chacun d'entre nous, en tant qu'homme, que tu parles à nos cœurs, que tu nous accompagnes, que tu nous montres, Seigneur, à travers ta parole, ce que tu veux qu'on change dans nos vies. Pour qu'on marche d'une façon qui te glorifie, pour qu'on marche d'une façon aussi que tu vas bénir, Seigneur, que tu vas nous accorder le succès. Et que tu mettes, Seigneur, aussi des femmes auprès de nous qui vont nous accompagner pour remplir ce rôle que tu nous donnes. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Vous savez, j'ai pas pris de chance ce matin. J'ai fait approuver ce que je vais dire par ma femme. Fait que ça devrait être pas si pire. J'espère. J'espère que ça dérangera pas trop. Mais en même temps, les Écritures sont là pour transformer nos vies et puis nous réformer dans nos voies. Juste avant qu'on commence à lire dans Néhémie, Proverbe 21:5 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Tantôt, Claude nous posait la question, c'est quoi la sagesse? La diligence qui agit d'une manière consciencieuse et appliquée. Homme de courage, sois sage, sois diligent. Dieu veut qu'on soit des hommes rempli de sagesse. Et on voit ça à plusieurs reprises dans les Écritures. La sagesse, la diligence que Dieu veut que l'on ait. Et Dieu a donné à l'homme un rôle de leader. Dieu a placé, si on regarde au moment de la création, Dieu a placé l'homme et la femme au sommet de la création pour en prendre soin, pour dominer sur la terre. Et Dieu a donné aussi à l'homme, parlant du genre masculin, un rôle aussi de leadership, de leader sur sa famille. Et on lisait dimanche soir, le deux dimanches soir, dans 1 Pierre 3, je fais juste vous reciter, puis on l'a cité quelques fois, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. » Voici une application conjugale. C'est pas nécessairement uniquement des applications conjugales qu'on voit en tant qu'homme qu'on doit appliquer la sagesse. Mais Dieu est en train de dire, même dans vos rapports avec votre femme, Usez de sagesse dans vos relations. C'est certainement quelque chose que Dieu veut que l'on ait. Dieu va accorder le succès à l'homme qui cherche la sagesse. La responsabilité que Dieu nous a donnée en tant qu'homme doit absolument être accompagnée de sagesse, la sagesse dans nos relations, la sagesse dans la gestion aussi de ce que Dieu nous a confié. Néhémie 2, on va relire les versets 1 à 5, juste pour se replacer dans le contexte. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. » Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Voici ce que Néhémie demande au roi, jamais qu'il avait paru triste. Et là, le roi lui demande, « Qu'est-ce que tu veux? » Et là, Néhémie dit, « Envoie-moi vers les sépulcres de mes pères, vers la ville que j'aime. » Vous savez, Néhémie, à travers l'exemple de Néhémie, je vois un homme qui est sage, un homme qui a usé de diligence, un homme qui ne s'est pas pointé devant le roi avec aucune idée de ce qu'il allait dire et puis que finalement, il a été pris au dépourvu avec la question du roi. On va voir pourquoi. On va lire les versets 6 à 10. Alors, le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de voyages durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne les lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une autre lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Néhémie s'est pointé devant le roi avec une idée claire, avec une idée déjà réfléchie. Néhémie a agi de sagesse. Est-ce que ça lui demandait du courage d'aller devant le roi? Certainement, on voit qu'il a craint beaucoup, qu'il a eu peur, mais pas parce qu'il avait eu peur, qu'il s'est découragé, qu'il s'est laissé aller. Mais il a présenté au roi sa requête et dans sa diligence, Néhémie a su solliciter la permission du roi. Le verset 6, c'est justement ce que Néhémie dit. Le roi, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et puis, plus au roi de me laisser partir. Néhémie avait fort probablement calculé le temps qu'il avait besoin de partir. Je lui fixais un temps et il avait pris le temps de calculer. Il n'a pas lancé un chiffre en l'air. Regarde, laisse-moi partir, peut-être 2 mois, on verra comment ça va, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Il avait pris le temps, certainement, d'évaluer. Il y avait des gens, on voyait dans le chapitre 1, des gens qui venaient lui faire un rapport de ce qui se passait à Jérusalem. Et si on regarde, faites juste tourner quelques pages plus loin, chapitre 5, verset 14. C'était quoi ce temps-là? Il n'a pas cherché à plaire au roi en disant, regarde, laisse-moi juste partir. Et chanson du roi, là, c'est un poste élevé, là. Il n'a pas cherché à flatter le roi en disant, regarde, ça va être pas si pire que ça, là. Verset 14 du chapitre 5. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Combien de temps il était là-bas? 12 ans! Je lui fixais un temps. Néhémie, il partait pas pour 1 mois, pour 12 mois. Il partait pour 12 ans. Et il a exposé au roi ce qu'il avait besoin en temps, dans ce qu'il avait évalué. Alors, on peut pas dire nécessairement qu'est-ce qu'il a calculé, qu'est-ce qu'il a évalué. Mais on voit à travers Néhémie que c'est un homme qui est sage, qui a présenté, qui a demandé la permission du roi, mais qui lui a fixé un temps clair. Néhémie, dans sa diligence, dans sa sagesse, dans ce qu'il a prévu, dans ce qu'il a calculé, il a su solliciter la protection du roi. Il savait très bien, Néhémie, qu'en quittant de l'autre côté, qu'il y aurait de l'opposition, qu'il y aurait des difficultés. Et puis, il n'est pas parti comme ça en se disant, « Je vais tout seul et puis on verra qu'est-ce qui va se passer. » Non, il a demandé au roi des lettres. La première lettre qui était sa lettre pour une protection, il dit, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils puissent me laisser passer. » Néhémie connaissait ce qui se passait de l'autre côté. Il savait que ses frères souffraient et puis il savait que Jérusalem était en difficulté, même aussi avec des gens qui étaient autour d'eux, qui leur faisaient des difficultés. Puis Néhémie, dans sa diligence, dans sa sagesse, Néhémie a su solliciter la provision aussi du roi. Dans cette dernière lettre qu'il demande, il connaît le gars à qui il faut adresser la lettre, Asaph. Celui qui est le gardien de la forêt, celui qui peut nous donner le bois. Et Néhémie n'est pas parti en se disant, ah, c'est juste des pierres qu'on a besoin pour la muraille. Il savait que les portes avaient besoin d'être reconstruites. Il savait que les portes avaient été brûlées. Et puis avant même de partir, il a prévu ce qu'il avait besoin. Et puis il s'en va là-bas avec ses lettres. Et avec les lettres pour avoir finalement la bois de charpente, pour avoir la muraille, pour le bois qui pourrait être utilisé pour la muraille, puis pour les portes là-bas aussi.